cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour recueillir des commentaires de nos auditeurs qui vont s'exprimer aujourd'hui sur le rôle et l'implication de la diaspora africaine dans les affaires du continent, en particulier au plan politique. Nous savons à ce propos que fin octobre, une rencontre à Genève en Suisse entre des partis politiques tchadiens et des membres de la diaspora débouchait sur l'élaboration d'une charte de transition, un document qu'ils souhaitent soumettre aux autorités militaires à N'Djamena. On peut aussi notamment citer le Sénégal où la diaspora est représentée par des députés à l'Assemblée nationale depuis une loi de 2017. Et ici à Washington, des centaines d'Éthiopiens ont manifesté hier contre la guerre au Tigré. On sait que de nombreux opposants et responsables de groupes rebelles africains également vivent à l'étranger tout en étant actifs dans la politique de leur pays. Alors que pensez-vous de l'engagement de la diaspora africaine dans la politique du continent? Son implication est-elle essentielle? Selon vous, les Africains de l'extérieur, ont-ils une grande influence sur les gouvernements de leurs pays respectifs? C'est les questions que nous vous poserons aujourd'hui. Nous avons en ligne Eric Tchiasouma, qui est justement de la diaspora en tant que Congolais en Afrique du Sud, et sur notre Facebook notamment. Eric parle des marches organisées à l'extérieur du continent qui peuvent donner des résultats. Eric, bonsoir, comment allez-vous?
Bonsoir, je me porte aussi bien, je me porte bien.
Alors on vous écoute.
Oui, la diaspora africaine joue vraiment un rôle important dans la politique de leur pays. Certains d'entre eux organisent des manifestations ou des marches dans leur pays d'accueil afin de pousser les autorités de leur pays d'accueil de mettre pression sur leur gouvernement afin de trouver des solutions à certains problèmes qui établissent leur pays. Par exemple, nous avons eu ces cas-là avec mon pays, la République démocratique du Congo. Excusez-moi de vous en parler, c'était à l'époque. Nous avons eu à organiser des manifestations à travers le monde, à Paris. J'ai aussi participé à ces mouvements-là de manifestation pour faire pression au régime de Kinshasa afin d'organiser les élections. Nous avons eu aussi ces élections, même si les élections, peu importe la manière les élections ont été organisées. Mais nous avons eu gain de cause. Et voilà pourquoi je dirais que non. Ces mouvements-là de contestation qu'on voit à travers dans certains pays africains ou en dehors du continent, qui sont en train de faire pression de leur pays, en dehors de leur pays, c'est vraiment nécessaire pour apporter des solutions ou faire pression au système en place. Parce que tous les opposants ou tout le monde ne peut pas être sur terrain en train de faire pression au gouvernement au risque de finir en prison. Voilà le plus grand problème. Voilà pourquoi certains utilisent ces moyens-là pour faire pression au gouvernement depuis l'extérieur. C'est vraiment important.
Alors, Eric, vous avez dit le régime de Kinshasa, je suppose que vous voulez dire le régime de Joseph Kabila.
Oui.
Eric, actuellement, est-ce que vous participez, comment vous participez ou de quelle manière vous investissez encore aujourd'hui? Est-ce que vous intéressez à la politique de votre pays, par exemple, lorsque vous conversez avec vos amis à travers les réseaux sociaux, est-ce qu'ils prennent en compte vos points de vue, bien que vous soyez éloigné?
Non, ils prennent nos points de vue en considération et nous font souvent aussi rapport de ce qui se passe au pays. Mmh. Et cela aussi nous permet de nous organiser à partir de la diaspora, de trouver aussi des solutions, comment nous organiser afin de faire pression au régime de Kinshasa depuis l'extérieur pour trouver des solutions aux problèmes qui déstabilisent par exemple notre pays.
Mmh. Merci beaucoup Eric, on vous dit à très bientôt. On a Hassan Omar qui est à Djibouti. Hassan qui a écrit sur le Facebook de VO Afrique que la diaspora peut jouer un rôle important pour le pays dans divers domaines. Hassan, comment allez-vous?
Ça va très bien, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des cas particuliers, par exemple, à nous citer, justement, que vous connaissez en ce qui concerne, je ne sais pas, la diaspora de Djibouti à l'extérieur, par exemple?
Oui, parce que, par exemple, si je prends un exemple très concret, par exemple, la diaspora somalienne, de la Somalie en Somalie, de Mogadiscio, et l'envoi de l'argent, le transfert d'argent, par exemple, c'est très important. Et à ce moment-là, il nourrit des populations importantes. Vous savez que la Somalie, elle a connu des guerres, les guerres civiles, et aujourd'hui, elle n'a pas su se relever, et donc il y a beaucoup de défis, surtout financiers. Donc, l'envoi de transferts, l'envoi d'argent, des transferts d'argent à travers le monde, et envoyé par la diaspora somalienne, soutient la majorité de la population somalienne qui réside au pays.
Est-ce que vous savez, Hassan Omar, si les Djiboutiens qui vivent à l'extérieur ont le droit de vote?
Oui, oui, les Djiboutiens aussi. Les Djiboutiens, par exemple, il y a des associations, par exemple, en Belgique, il y a en Amérique du Nord aussi, aux États-Unis et au Canada. J'en vois souvent des moyens, par exemple, sur le plan sanitaire, par exemple, les emplois des lits pour les hôpitaux, ils envoient par exemple pour l'éducation aussi une bande de fournitures scolaires à la population qui sont démunies, surtout les populations qui vivent dans les milieux ruraux. Donc la société est en fait la société qui vit, donc la diaspora qui vit à l'extérieur du pays, fait cette politique. Même aussi, on peut aussi relativiser ce point si elle devient, par exemple, un obstacle au développement, par exemple, en utilisant les propagandes, une contrainte au développement, mais peut-être l'idée. Donc, ça dépend de la sensibilité de cette diaspora, mais aussi ça dépend de si elle est mise politiquement et si elle est. En fait, il y a aussi encore du patriotisme au sein de la diaspora de chaque pays. Mais la diaspora est apportée, la technologie est apportée, et en fait, des formations ont été apportées, et un soutien éducatif a été apporté, un soutien sur le plan sanitaire. Donc, ça dépend de la volonté, mais aussi du patriotisme de la diaspora de chaque pays du continent africain.
Un grand merci à Hassan Omar. À partir de Djibouti, nous avons en ligne Idriss Sangba Ouattara, qui est en Côte d'Ivoire. Idriss Sangba Ouattara, qui pense que la diaspora africaine a bien sûr son mot à dire sur la politique africaine, mais il pense que c'est plus complexe qu'on ne le pense. Idriss, bonsoir. Vous avez, je crois, quelque chose d'intéressant à nous dire. On vous écoute.
Bonsoir, VOA. Alors, comme je l'ai dit, le rôle de la diaspora africaine est très important et ils ont leur mot à dire sur la politique africaine. Mais leur engagement en politique est un problème assez complexe comme on le pense. Souvent, moi, ce que je déplore, c'est une diaspora qui est utilisée par leur pays d'accueil d'une autre manière qui. Vraiment qui nous étonne, nous, en tant qu'Africains. Parce que souvent, l'Occident prend cette diaspora pour déstabiliser des régimes. Et par contre, souvent, quand ils ne sont pas en accord avec d'autres gouvernants, entre parenthèses, corrompus, quand ils ne sont pas d'accord, ou bien soit qu'ils sont d'accord avec des gouvernants corrompus, et cette diaspora. On a du mal à atteindre cette diaspora. C'est pas, je dis, le problème est tellement complexe qu'on ne le croit. Souvent, quand ils sont d'accord avec des dirigeants, ça passe. Donc, vraiment, la diaspora a son mot radical, que ce soit que sur le plan financier, sur le plan politique, la diaspora africaine doit, en tout cas, nous venir en aide ici.
Alors, Idriss Sangba Ouattara, je vous remercie pour cette réflexion. Moi, je voudrais lire. En fait, je vais répéter ce que vous venez de dire, mais c'est pour l'éclaircir, parce que je ne suis pas certaine qu'on ait tous bien compris, et vous l'aviez très bien écrit. Donc, je vous reprends en disant, alors, vous avez écrit, Idriss Sangba Ouattara, souvent, nos États africains jouent le jeu avec l'Occident pour utiliser cette diaspora à des fins politiques personnelles. Quand ils sont en accord avec un chef d'État africain corrompu, qui est leur marionnette, dites-vous, ils mettent la diaspora de ce pays aussi. Par contre, dites-vous, si le contraire se présente, ils soutiennent cette diaspora et la transforment en opposition farouche contre cet État. Voilà, ce sont vos propos et vous dites en effet que c'est un peu compliqué, mais en tout cas, on vous a très bien compris, Idriss Sangba Ouattara. On vous dit à très bientôt, merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine discussion. On a notamment d'autres commentaires sur le Facebook de VOA Afrique. On a le commentaire d'Alphonse Mbouaki, qu'on essaie de joindre parmi d'autres auditeurs. Alphonse, qui est en République démocratique du Congo, il a écrit sur le Facebook de VOA Afrique, je le cite, « Les membres de la diaspora sont minoritaires et ne peuvent pas peser sur les dirigeants de leur pays, pense-t-il. D'ailleurs, dit-il, souvent la diaspora est privée de participation électorale et a aucun impact. » Alors, il est vrai que tous les pays ne proposent pas à leur diaspora de pouvoir voter. Par exemple, on sait qu'en Afrique subsaharienne francophone, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burundi, le Gabon, le Mali, le Niger, la Centrafrique ou le Sénégal, entre autres pays, reconnaissent à leurs citoyens vivant à l'étranger le droit de vote. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Je reprends le commentaire de Alphonse Mbouaki, qui est en République démocratique du Congo. Il dit dans son pays, enfin, la diaspora s'est constituée en combattants politiques, donc il parle de la diaspora congolaise à l'étranger, et bloque des concerts d'artistes musiciens pro-gouvernement, dit-il. Leur voix est nécessaire, mais cette diaspora est critiquée parfois par les populations pour ne pas souffrir avec elles dans la lutte contre des régimes autoritaires, dit-il. Il conclut en disant « Cette diaspora veut arriver au pouvoir en y accédant par la facilité ». C'est donc les propos de Alphonse Mbouaki. On a Thierno Oumar Diallo qui est en Guinée. Thierno, comment allez-vous ?
Je vais bien, et vous ? Bonsoir, fidèle auditeur de l'Afrique.
Merci beaucoup, ça va très bien également. Alors, les membres de la diaspora africaine, dites-vous, jouent un rôle important dans la vie sociale et politique de leur pays d'origine. On vous écoute, vous voulez parler justement de la diaspora guinéenne, à vous la parole.
Oui, tout à fait. Comme vous le savez, la Guinée a traversé des crises ces dernières années sociopolitiques. La diaspora guinéenne a vraiment contribué au combat avec fierté. Les diasporas qui se trouvaient au niveau de la France sont partis voir à faire des rencontres, que ce soit à Quai d'Orgé, à Matignon, à Choua aussi, en Belgique, en Bruxelles, chez les États-Unis, jusqu'à Manhattan, à la Maison Blanche, juste pour la cause guinéenne, pour la cause noble. Je pense que la diaspora contribue à la lutte citoyenne parce qu'ils peuvent mener la lutte là-bas pacifiquement et encore ça peut apporter parce que c'est à côté des institutions, les grandes puissances et les pays amis de la Guinée. Je pense qu'ils ont contribué jusqu'à date et c'est quelque chose qui est vraiment salutaire. Il faut apprécier et encourager parce que ça a été le cas partout. Si aujourd'hui la diaspora tchadienne continue la lutte, la diaspora congolaise, sénégalaise, ils sont non seulement en train de contribuer politiquement, socialement, mais aussi économiquement. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de notre développement ou bien de notre position économique sans parler de revenus de cette diaspora. C'est chez des gens engagés qui ont eu la chance d'aller se former et apprendre beaucoup de choses, qui veulent rentrer et servir, mais malheureusement, ils ne veulent pas servir et régime, mais plutôt la patrie. C'est ce qui fait qu'ils regrettent. Beaucoup n'ont pas voulu rentrer pour servir de dictateur en Afrique. C'est ce qui fait que certains ont fait 30 ans, 40 ans, que ce soit à Paris, à Londres, etc. Et ce sont des professeurs de grandes universités, des banquiers et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, en Guinée, nous sommes en transition. Beaucoup, beaucoup de diaspora. Ils sont rentrés au pays, ils sont tellement nombreux au sein de nomination au sein du gouvernement de Mohamed Diabogui. Donc c'est des gens expérimentés qui ont l'amour réel pour la patrie et aussi des compétences parce qu'ils ne peuvent pas servir dans les multinationales, dans les grandes institutions internationales pendant que c'est médiocre. Donc c'est des gens à saluer et aussi à féliciter aussi. Encourager parce que l'expérience qu'ils ont eue, elle doit revenir pour servir le continent, pour servir l'Afrique. Le combat doit continuer, mais après avoir vaincu les dictateurs, ils doivent tous revenir enseigner, former des jeunes et participer sur tous les domaines pour que l'Afrique aussi puisse décoller.
Merci beaucoup.
La diaspora fait la fierté du continent.
Un grand merci, Thierno.
Dans les sportifs, dans les culturels, littérature et tout.
Merci beaucoup, Thierno Oumar Diallo, à partir de Conakry, en Guinée. Nous essayons de joindre Léonard Traoré Niyonkuru, qui est à Bujumbura, au Burundi. Et on a le commentaire de Jeff Baltus, que je vais citer. Alors, il se pose une bonne question. Il dit, comment des représentants des groupes rebelles peuvent-ils vivre tranquillement à l'étranger? Sont-ils financés par ces gouvernements? N'ont-ils pas commis des crimes de guerre, tués des victimes innocente? Donc ça, c'est la question de Jeff Baltus. On a Jim Rangar Théadou Mozana, qui est au Tchad. N'Djamena, comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, vous dites, nous ne sommes pas sans ignorer que la diaspora joue un grand rôle pour le développement de l'Afrique. Jim Rangar, justement, on vous écoute par rapport aux événements récents, justement, dans votre pays et l'implication de la diaspora, notamment. À vous la parole.
Moi, je crois que...
Je crois qu'on a perdu Jim Rangar Théadou Mozana, malheureusement, qui est au Tchad. Mais donc, en fait, pour resituer tout cela, hein, par rapport à l'implication, on va dire, de la diaspora dans les affaires politiques africaines, hein, on sait que, alors selon le correspondant de VOA Afrique, André Kodmadjingar, des partis politiques, comme j'ai dit tout à l'heure, et la société civile, on participait à une rencontre fin octobre à Genève aux côtés des Tchadiens de la diaspora et qui aurait débouché sur l'élaboration d'une charte de transition en vue de la soumettre aux militaires. Alors c'est une annonce, hein, qui ne serait pas du goût des autorités à N'Djamena, selon donc le reportage de notre correspondant. Et dans ce reportage, un membre de la délégation tchadienne, Sitak Yobatina Beni, dit que la charte actuelle, dans la charte actuelle, la question de la conférence nationale inclusive n'est pas inscrite. Et le document de Genève prévoit 4 organes. Alors, le porte-parole du gouvernement, Abderrahman Koulamallah, a réagi à l'annonce de cette charte élaborée à l'étranger. Il a dit, je le cite, « Vous voulez que le porte-parole du gouvernement perde tout son temps à répondre à ces épiphénomènes? Ils sont combien et quelle légitimité ils tirent pour mettre en place une charte de transition? Il serait bien inspiré de s'associer avec d'autres Tchadiens ici, dont je ne partage pas les points de vue, mais au moins ils se battent à l'intérieur du pays. C'est très facile, dit-il, de rester en Europe et de dire qu'on va faire une charte pour les Tchadiens. Nous ne perdons jamais notre temps à répondre à ces gens qui pensent refaire le monde lorsqu'ils ne sont pas capables de garder même une chèvre, dit-il. Donc ça sont les propos du porte-parole du gouvernement tchadien. Et dans ce reportage, notre correspondant a interrogé le constitutionnaliste Ahmad Mahamat Hassan, qui répond, je le cite, « Ces Tchadiens ont proposer des choses intéressantes et le ministre ne doit pas les exclure d'emblée, dit-il. Nous avons à nouveau Jim Rangar en ligne. Jim Rangar, on vous écoute tout de suite, vous pouvez vous exprimer.
Ok, comme je l'ai mentionné dans mon commentaire, nos compatriotes qui sont à l'étranger compliquent de notre pays. Donc, moi je crois qu'ils sont... Ils doivent être écoutés parce que parfois ils contribuent financièrement, matériellement, même intellectuellement. Donc, face à cette crise qui traverse le pays, je crois qu'ils doivent prendre part activement même au dialogue qui est en cours. Et donc, ils sont des Tchadiens, et ce pays les appartient, ils ont des choses à proposer. Donc, moi j'interpelle surtout ceux qui dirigent aujourd'hui la transition à ne pas les écarter ni les oublier. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils essaient de dire ce qu'ils pensent et ça ensemble que nous devons construire ce pays. Mais du moment où on écarte les opposants ou les politico militaires, je crois que ça sera mal à notre pays. Donc, moi, mon gros souci est que nos compatriotes qui sont à l'étranger et d'autres pays peuvent emboîter aussi le pas. Ceux qui sont à l'étranger, bon, c'est pas pour dire qu'on doit les exclure ou on doit pas prendre leurs préoccupations en compte. Donc moi je crois que c'est très important. Il y a des intérêts qui sont là, il y a des investisseurs partout, donc ils doivent aussi apporter leur pierre de contribution pour qu'ensemble notre pays essaie de se lancer dans autrement. Mais du moment où, parfois, du point de vue politique, on les oublie ou on les écarte, je crois que ça n'avantage pas notre pays. Et c'est une façon aussi de remettre encore en état notre pays. Donc moi, c'est mon souci est que ceux qui sont à l'étranger doivent venir, doivent proposer, doivent essayer de donner leur point de vue pour permettre à ce que notre pays retrouve un nouveau souffle.
Merci beaucoup, Jim Rangar Teadoum Ozana. On rappelle que vous êtes à N'Djamena au Tchad. On vous dit à très bientôt. On a maintenant en ligne Mamadou Ouribari qui est au Sénégal. Mamadou, comment allez-vous?
Oui, bonsoir Nathalie. Bonsoir aux auditeurs de la VOA Afrique.
Alors, vous n'avez pas laissé de commentaires sur le Facebook de VOA Afrique, mais vous avez dit que vous vouliez vous exprimer sur la diaspora, bien sûr, sénégalaise. On vous écoute.
Absolument. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole pour m'exprimer pour la diaspora sénégalaise. Moi, à plus tôt, je suis un Guinéen d'origine, mais je suis au Sénégal, donc je connais bien cette diaspora sénégalaise et je parle d'elle. Voilà, et ici au Sénégal, vraiment, la diaspora sénégalaise fait assez de choses au niveau de leur pays. Et j'ai constaté que la diaspora sénégalaise participe beaucoup au développement de leur pays, et notamment au niveau du secteur immobilier. Ils construisent beaucoup au Sénégal, et cela est très très important ici au Sénégal, parce qu'il y a assez de monde au Sénégal, et donc il y a un véritable problème de développement ici. Ce qui fait que la diaspora s'investit beaucoup et au niveau du secteur immobilier, ça c'est un. Et au niveau du transport également, et la diaspora s'investit très, très, l'investissement de la diaspora est extrêmement important au niveau du transport public aussi. Et dans d'autres secteurs, comme l'hôtellerie aussi, ils investissent tellement aussi au niveau du secteur hôtelier. Donc, pas seulement aussi, c'est ça, et si nous regardons aussi, au niveau des transactions financières, c'est-à-dire des transferts d'argent qui effectuent de l'étranger vers le Sénégal, ça aussi c'est des milliards qu'ils font par an. Notamment, c'est la diaspora sénégalaise qui se trouve en Espagne, en Italie, et un peu partout à travers le monde. Donc c'est à peu près ça l'importance de la diaspora sénégalaise qui contribue vraiment au développement du Sénégal. Si vous êtes au Sénégal et vous êtes un peu partout, c'est cette diaspora-là, n'oubliez pas leur pays, franchement.
Merci beaucoup pour votre participation, Mamadou Ouri Barry, à partir de Dakar au Sénégal. On a Archiduc Théodore qui avait laissé un tout petit commentaire sur le Facebook de VOA Afrique. Il est au Tchad, à N'Djamena, et il ne peut pas donc participer en direct avec nous, comme il vient de nous le dire. Il veut simplement qu'on lise son petit commentaire. Il dit tout simplement, ces partis politiques tchadiens et la diaspora ont de bonnes visions pour l'avenir du Tchad. Donc c'est un message bien reçu de la part d'Archiduc Théodore, donc qui est à N'Djamena. On a parlé donc du Tchad. Hein. À ce propos, hein, on sait que les principaux groupes rebelles tchadiens se sont dit récemment disposés à participer au dialogue national hein, sous certaines conditions après des rencontres à Doha et Paris, donc à l'étranger, hein, avec le comité chargé de préparer l'événement. Et pour exemple, on sait que Timane Erdimi, le chef de l'UFR, qui est une alliance de plusieurs groupes rebelles, vit au Qatar depuis une dizaine d'années. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres hein, de chefs de groupes rebelles ou autres qui vivent à l'étranger. On a parlé également tout à l'heure, et ce sera pour terminer, de certains pays qui permettent, hein, qui ont dans leurs assemblées des représentants de la diaspora à l'étranger, c'est le cas du Sénégal entre autres, mais l'on sait que par exemple en Europe, notamment l'Italie, le Portugal et la France ont également une représentation des résidents de l'étranger au sein des parlements nationaux. Voilà, ce sera tout pour cette émission interactive. À votre avis, c'était Nathalie Barge avec vous. À la production et aux appels téléphoniques, c'était Michel Joseph. Restez avec nous à l'écoute de VOA Afrique. On vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt et bon courage.